Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles.
Chers auditeurs, bonjour. Alors, quelle entrée en matière avec cette petite musique de nuit jazzifiée par Claude Bolling. Un extrait de son album Jazz Gang Amadeus Mozart, un album de 1965. Et je peux vous dire qu'à l'époque, l'album avait fait autant parler de lui que le fameux playback de Jacques Loussier. Mais oui, c'est le moment où les musiciens de jazz se mettent à systématiquement jazzifier le grand répertoire classique. Tout cela pour entrer de plein pied dans une émission Mozart, vous avez dit Mozart, à la découverte des secrets et des raretés de notre enfant prodige préféré. Mais je ne vais pas commencer par une rareté, bien au contraire, puisque je vous propose d'écouter maintenant le premier mouvement de sa 25e symphonie. Alors la 25e symphonie, il n'y a pas si longtemps que ça, ce n'était pas du tout dans les symphonies connues de Mozart. Seulement voilà, il y a eu en 1987 la fameuse publicité pour les pâtes Barilla. Vous vous souvenez, c'était signé Claude Miller. On y voyait une voleuse habillée d'un collant noir qui saute sautait tel un chat d'un toit à un autre dans Venise désert et qui avait subtilisé la fameuse mallette. Ce n'était pas une collection de diamants, c'était une collection de pâtes. Et l'on entendait la Tosca, puis la 25e symphonie. 25e qui avait déjà fait les délices du tout début du film Amadeus de Milos Forman en 1984. C'est une œuvre qui est composée en 1773. Mozart a 17 ans. Nous sommes à Salzbourg. Une œuvre batailleuse, théâtrale, pleine de contrastes, de nuances et d'expressions. Une musique presque romantique, enfin romantique, pas vraiment. Mozart ne parle pas de lui, ne se livre pas, ne se plaint pas. Il met en scène, il dramatise, il saisit. C'était le premier mouvement de la 25e symphonie de Mozart, une œuvre écrite en 1773, interprétée par le Concertus Musicus Wien sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. Alors après ce tube, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet avec des œuvres beaucoup moins connues, des découvertes comme par exemple ce véritable duo des chats que je vous propose maintenant. Alors attention, je dis duo des chats, ça ne s'appelle pas officiellement le duo des chats. Le duo des chats, c'est censé être de Rossini. Bon, enfin quoi qu'on sache maintenant que ce n'est pas non plus Rossini qui l'a composé, mais passons. Le duo des chats de Mozart. En fait, c'est une pièce tout à fait à part qui a été composée pour compléter un opéra de Schikaneder. Vous savez, Schikaneder, c'est celui qui est à l'origine de la flûte enchantée. Il avait composé un opéra intitulé La pierre des sages. Et cet opéra a été signé de 4 compositeurs, dont Mozart. Et Mozart a bien écrit le duo que vous allez entendre, ce que j'appelle le duo des chats. Il en a écrit la ligne mélodique, mais on n'est pas tout à fait sûr que ce soit lui qui ait écrit l'orchestration et l'accompagnement. On a retrouvé ça récemment après la Seconde Guerre mondiale. Ça avait été donné une seule fois en 1790. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça le duo des chats? Ben voilà, c'est parce qu'une femme fait croire à son mari qu'elle a été ensorcelée et qu'elle ne peut plus s'exprimer qu'en miaulant. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait croire ça à son mari? Mais parce qu'elle ne peut pas répondre aux questions de son mari, qui se doute à juste titre qu'il s'est passé un certain nombre de choses pendant son absence. Et du coup, comme elle fait semblant de ne pouvoir que miauler, eh bien ça la délivre du fait d'avoir à dire des choses fausses ou de dire la vérité. Enfin, elle ne veut ni mentir ni dire la vérité à son mari, donc elle miaule pendant que le mari s'énerve. « Maintenant, chère femme, tu resteras toujours à la maison. Le diable emporte ses miaulements. M'es-tu, oui ou non, rester fidèle ?»« Ah zut, elle est ensorcelée. Par où commencer ?» Nous écoutons donc « Nun liebes Weibchen », interprété par le baryton Brin Terfel et la soprano Mia Persson. Alors ça, j'adore le fait que la soprano s'appelle Mia de son prénom, mais oui, c'est presque miaou. Et c'est accompagné par l'orchestre de chambre d'Écosse sous la direction de Sir Charles Mackerras.
Mir der stillen Hütte zu.
Miau, 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 miau.
Was redst du da? Sag's nur heraus. Nicht wahr, nun bleibst du gern zu Haus. Teufel hol das Miau-Geschrei, sag, bleibst du mir alleine treu?
Miau,
miau, miau, miau. Oh weh, ich armer Mann, sie ist behext, was fang ich an?
Miau, 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 miau.
Keine Hilfe mehr für dich.
Miau, 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 miau.
Vielleicht hilft heute die Flamme noch. Komm, komm, er wird uns verzeihen.
Miau, miau, miau.
Nous écoutions Nun Liebes Weibchen, le duo des chats signé Mozart en 1790 par Brinterfell, Mia Persson et l'orchestre de chambre d'Écosse sous la direction de Sir Charles Mackerras. Et nous continuons notre promenade mozartienne avec le rondo final du concerto pour basson. Un concerto pour basson écrit par le jeune Mozart à l'âge de 18 ans à la demande d'un certain baron de Munich, un bassoniste amateur. Alors moi je suis quand même extrêmement éberlué qu'un amateur de l'époque ait pu jouer tous ces arpèges, tous ces triolets, tous ces doubles croches. Parce que vous allez l'entendre maintenant, la partie de basson est diablement difficile. Mais voilà, la pratique amateur à Vienne, dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, était d'un très haut niveau. Énormément de Viennois pratiquaient d'un instrument de musique. Et c'est pour notre plus grand plaisir que nous écoutons maintenant ce rondo pour basson et orchestre. C'est Lorenzo Alper qui tient la partie de basson solo. Et il est accompagné par le concerto Köln. Nous écoutions le dernier mouvement du concerto pour basson de Mozart, donc une œuvre écrite à l'âge de 18 ans en 1774. Le soliste, c'était Lorenzo Alpert et il était accompagné par le concerto Köln. Alors moi, ça me met toujours d'excellente humeur d'entendre du basson. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, j'adore cet instrument. J'ai l'impression qu'il peut tout faire. Il a d'abord une tessiture très large. Hein. Il y a des sons très graves dans le basson, mais ça peut aller assez aigu. Il peut être tendre, plaintif, mélancolique, lyrique, caustique. Il peut même être un peu inquiétant, jaloux. Enfin, j'ai l'impression qu'il est capable d'exprimer à peu près tous les sentiments humains. Et je ne saurais trop recommander aux enfants qui se posent parfois la question de savoir par quel instrument de musique ils vont commencer la musique, de ne pas forcément choisir le violon, la guitare, le violoncelle, mais également ce noble instrument qu'est le basson et que l'on enseigne heureusement dans la plupart des conservatoires. Je laisse maintenant mon cher basson pour vous proposer une mélodie romantique. Mais oui, je parle bien de mélodie romantique, ce qu'on appelle un lied, une mélodie romantique allemande, parce que je pense que c'est Mozart qui a inventé le lied. Allemand. Il n'en a pas fait beaucoup, je ne parle pas de ses ariettes, je ne parle pas de ses petites pièces vocales de circonstance, un petit peu salonnardes, mais bien d'un petit groupe de mélodies qu'on peut appeler lied, parce que vous allez vous en rendre compte maintenant, il n'y a pas cette écriture vocale par petites unités avec un phrasé ornementé qui fait vraiment musique classique, mais bien au contraire, une grande phrase legato qui plane sur un bel accompagnement pianistique. La mélodie que je vous propose est intitulée Abendempfindung, sensation du soir. Elle date de 1787. En voici le texte. Le soir est tombé, la lune brille, la vie s'estompe et le doux pressentiment de notre mort nous envahit. Alors ça, si c'est pas un texte romantique, ça parle de la nature, ça parle de la mort. Enfin, vous allez voir, cette mélodie est absolument merveilleuse. Je vous en propose une interprétation de l'une de mes chouchous. Les auditeurs réguliers de La Preuve par Z savent l'amour que je porte à la soprano Rita Streich. Elle est accompagnée par l'un des plus grands pianistes accompagnateurs, Eric Verba.
Mich herab, sie
L'étonnante intensité romantique de la mélodie mozartienne Abend dem Findung, sensation du soir, par la soprano Rita Streich, accompagnée par le pianiste Eric Verba. Et d'une certaine manière, nous allons rester dans une sorte de veine romantique, puisque je vous propose d'enchaîner maintenant avec une œuvre de jeunesse, Mozart à 15 ans, l'ouverture de la Betulia Liberata. La Betulia Liberata, c'est un oratorio écrit par Mozart à la demande du prince d'Aragon, et cet oratorio commence par une ouverture, qui est une sorte de symphonie en trois parties. Chacune des parties comprend une mesure avec un nombre de temps différent. La première partie est à 4 temps, la deuxième partie est à 3 temps, la troisième partie est à 2 temps, mais reprend le motif initial. Tout ça dans cette sonorité un peu sombre, romantique de ré mineur, qui semble prouver que la veine romantique existe depuis toujours chez Mozart. Donc l'ouverture de la Betulia Liberata par le Concerto Köln. Le Concerto Köln interprétait donc l'ouverture de la Betulia Liberata de Mozart, donc une pièce de 1771, Mozart à 15 ans. Et puisque je parle décidément beaucoup de romantisme au cours de cette émission mozartienne, je vous propose d'écouter maintenant l'un des plus bels adagios que n'ait jamais composé Mozart. Je pense à la musique funèbre maçonnique. Alors c'est une œuvre qui date de 1785, que Mozart écrit à l'occasion du décès de deux frères maçons. Et vous allez entendre maintenant 69 mesures de musique absolument sublime, avec d'un côté un groupe de 9 vents, dont trois cordes basses et un contrebasson, donc des vents plutôt graves, qui forment comme une sorte d'orgue imaginaire qui s'oppose à l'expression au caractère plaintif des cordes, une sorte de combat du deuil et de l'espoir, cet espoir sur lequel on reste quand même puisque la dernière mesure se termine par un accord majeur. La musique funèbre maçonnique par l'orchestre du XVIIIe siècle sous la direction de Franz Brüggen.
Thank you.
La splendeur majestueuse, sombre, intense, grandiose de la musique funèbre maçonnique de Mozart par l'orchestre du XVIIIe siècle sous la direction de Franz Bruggen. Si vous ne connaissiez pas déjà cette pièce, j'espère maintenant que vous l'aimerez autant que je l'adore. Et pour faire contraste en quelque sorte, je vous propose maintenant de faire un petit pas de côté. Nous restons avec Mozart, mais il ne s'agit plus de Mozart Wolfgang, mais du fils François-Xavier. Mais oui, dans ses fils, il y a François-Xavier qui est né le 26 juillet 1791, qui n'a connu son père que 4 ou 5 mois, puisque son père est mort très peu de temps après sa naissance, et qui a fait lui-même une carrière de pianiste, de chef d'orchestre et de compositeur comme papa. C'était même un enfant prodige comme papa, et à 14 ans, il fait son premier concert à Vienne, son premier grand concert, où on donne plusieurs de ses pièces, où il se produit comme pianiste, et le concert est un grand succès, un succès financier même qui va lui payer une partie de ses études, qu'il effectue en partie auprès de Salieri. Salieri, bon, vous avez peut-être retenu que c'était le méchant de l'histoire dans le film Amadeus de Milos Forman, mais en fait non, il s'est toujours très bien entendu avec Mozart. Et il a même déclaré dans une lettre qu'il pensait que le fils Mozart ferait autant parler de lui que son père. Alors bon, il ne faut pas exagérer tout de même, je ne dirais pas que François-Xavier a le génie de son père, mais il a quand même écrit vraiment de la très très bonne musique, comme le prouve le final de son second concerto pour piano que je vous propose d'écouter maintenant, une œuvre de 1818, en plus excellemment interprétée par le pianiste Philippe Entremont, accompagné par l'orchestre de chambre des Pays-Bas sous la direction de Sébastien Knauer, une sorte de polka très amusante, très fine, qui place bien François-Xavier à l'endroit où il doit être placé, c'est-à-dire comme une sorte de maillon qui relierait Mozart à Chopin. Finale du second concerto pour piano et orchestre de François-Xavier Mozart. Thank you. C'était le final du second concerto pour piano et orchestre de François-Xavier Mozart. François-Xavier, le fils, par Philippe Entremont au piano et l'orchestre de chambre des Pays-Bas sous la direction de Sébastien Knauer. Alors j'ai parlé de pas de côté tout à l'heure, je vous propose de faire un deuxième pas de côté maintenant. Alors on va vraiment être dans le bas-côté avec une marche turque revue et corrigée par mon groupe de rock préféré, Exception, dont le mauvais goût atteint pour moi au sublime, surtout quand il épice la marche turque de riffs de cuivre et d'un fantôme égaré de la célèbre sonate facile pour piano. La marche turque version rock, version Exception, ça date de 1972, c'était paru sous le titre À la Turca, et l'on voit bien que l'esprit d'enfance n'avait jamais cessé de souffler sur ce groupe néerlandais, groupe de rock progressif, fondé en 1967 et dissous en 1989, qui s'était fait une grande spécialité du détournement de la musique classique. Alors pour terminer notre émission, je vous propose un dernier petit bonbon, et cette fois-ci, il s'agira de vrai Mozart. Mais attention, ce n'est pas long. Pourquoi ? Mais parce qu'il s'agit d'un inachevé. Mais oui, Mozart, on l'imagine toujours, se mettant à sa table de travail et écrivant sans rature la pièce du début jusqu'à la fin. Mais parfois, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Il y a, de temps en temps, des manuscrits avec des ratures. Et puis surtout, il y a eu des débuts qu'il n'a pas terminés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne lui plaisait pas. Il ne trouvait plus l'inspiration, ou je ne sais pas, le téléphone a sonné. Ça l'a dérangé dans son travail. Enfin, en tout cas, on a des centaines et des centaines d'inachevés. Pour quatuor à cordes, pour orchestre, pour piano. Celui que je vous propose d'écouter maintenant a été esquissé à Vienne en 1782. C'est le début d'une sonate en si bémol pour deux pianos. Et moi, je trouve que ça ne partait pas si mal. Écoutez, vous allez voir, c'est très doux. On dirait presque une chanson.
Thank you.
C'est joli, n'est-ce pas? Mais voilà, ça restera inachevé pour l'éternité. C'était un fragment de début de sonate par le duo Kremlinck, un fragment inachevé pour terminer notre Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Sègre, chef opérateur du son Claude Niort. À la semaine prochaine.